Eh bien, cette salle, elle est installée dans des caves troglodytiques, c'est-à-dire qu'elle est en rez-de-jardin, mais sous un coteau. Donc, ce sont des caves qui ont été creusées pour peut-être pour récupérer les pierres et construire la maison à côté, et puis aussi pour servir de réserve, dans la mesure où la maison était une auberge. Donc, ces caves servaient en réserve.
En fait, troglodyte, c'est vraiment un habitat creusé dans la roche ou à même la roche.
C'est ça, c'est creusé dans la roche.
Ouais. Alors justement, on en vient à cette salle de spectacle. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant qu'est-ce qui vous a motivé, vous, de fonder finalement cette salle troglodyte ?
Eh bien, cette salle, on l'a créée il y a donc un peu plus de 10 ans. Et avec Richard, mon mari, on était des spectateurs de spectacles vivants. On sortait en moyenne plusieurs fois par semaine. Et ça correspond au moment où la petite salle du Carré Davidson à Tours a fermé, où le bateau ivre allait fermer. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il faut, on pourrait peut-être créer un lieu où on recevrait des artistes et du public. Et puis, il y a eu en même temps une opération pour sauver les troglos qui était organisée par le Conseil général à l'époque. Et donc, on s'est renseigné et puis petit à petit, on a créé notre lieu de spectacle.
Et vous êtes dit bingo.
Bingo.
Comment est venue cette idée de se dire, de se lever un jour et de se dire, tiens, dans ce lieu qui est quand même atypique, qui ressemble à une cave peut-être, où vous allez peut-être préciser tout ça, mais de se dire, tiens, on va faire une salle de spectacle.
Alors en plus, ça ressemblait vraiment à rien parce que c'était 3 petits boyaux de cave et donc on ne pouvait vraiment rien en faire. Il a fallu faire des très gros travaux pour abattre des murs porteurs et pouvoir en faire une salle qui contienne 50 spectateurs, plus une scène, et plus une loge, plus l'entrée publique, plus la technique.
La technique, la régie qu'il faut
pas oublier. Et ça nous est venu, je crois que c'est vraiment la proposition du Conseil Général qui a fait tilt. Et puis, quand on a proposé notre projet, on était évidemment les seuls à proposer une salle de spectacle. Les autres projets étaient plutôt soit des chambres d'hôtes, soit pour vendre du vin. Et donc, la personne chargée du dossier a été emballée par notre projet. Et puis, c'est comme ça qu'on l'a... On l'a fait naître et puis ça a progressé petit à petit. On ne l'a absolument pas construit dans nos têtes avant de le construire vraiment. On a avancé petit à petit et c'est devenu ce que c'est devenu.
Et ça s'est fait au fur et à mesure. Alors, on l'a évoqué, ça date de 2007.
L'ouverture.
Premier spectacle, oui, l'ouverture, évidemment. Mmh. Premier spectacle en septembre 2007, c'est ça. Vous avez commencé par quoi ? Quel spectacle ? Quel genre de spectacle ?
Le premier spectacle... Je sais plus. Si, c'était peut-être bien du jazz. Et puis a suivi du rap. Et puis, la première saison, elle a été faite essentiellement par des artistes qu'on connaissait déjà ou que quelqu'un, un membre du bureau connaissait, puisqu'on n'avait absolument pas de financement. Donc, on a fait une première saison en partage de recettes. Mais on avait pour objectif que dès la deuxième saison, on puisse payer correctement les artistes. Et on y est arrivé, sinon on aurait arrêté.
Parce qu'il faut bien le préciser aussi, c'est une salle de spectacle, donc avec des pièces et des spectacles finalement de tout bord, de tout genre. Ça passe de la musique à la poésie, au théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en parler de tous ces petits styles différents qui se jouent ?
Il y a eu de la danse, il y a eu de tout. Eh bien, notre objectif, c'est effectivement de faire connaître toutes les disciplines du spectacle vivant et on les aime toutes, donc on ne programme que des spectacles qu'on a vus et qui nous ont emballés. Et donc à partir du moment où on voit un spectacle qui nous plaît vraiment, on regarde s'il est toulinable, puisqu'on a inventé cet adjectif.
Un terme.
Alors toulinable, c'est il faut que ça loge sur la petite scène, parce qu'on a quand même un lieu qui est petit. Et puis il faut aussi que ça loge dans le budget, il faut que, c'est ça. Mais le premier critère, c'est que ça nous plaise. Et ensuite, alors, ce qui nous plaît, c'est forcément de qualité, parce que ce qui n'est pas de qualité, ça ne nous plaît pas. Et on estime que le public, il suivra sur la qualité. Après, il aimera plus ou moins, mais on ne choisit jamais en fonction du public. C'est notre goût.
C'est à la base votre goût qui fait le choix de spectacle. Donc j'imagine c'est une décision par rapport à la programmation. Bon, on y reviendra plus particulièrement en deuxième partie d'émission, mais c'est une décision qui est faite avec les membres de l'association, la Touline, ou c'est...
Non, la programmation, elle est faite par deux membres de l'association.
Dont vous faites partie.
Voilà, c'est Richard et moi, les deux cofondateurs. En fait, on estime que pour avoir une ligne de programmation qui se tienne, il faut pas déléguer, il faut pas. Alors bien sûr, on écoute et puis on a parfois des membres de l'association qui nous conseillent des spectacles, mais alors on est très dur, on va voir les spectacles qu'on nous conseille et on les programme si ça nous convient.
Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur cette salle et sur ce qui fait la particularité de cette salle, donc Troglodyte? Comment ça s'est passé un peu au début? Vous avez parlé de la rénovation au départ de la salle. Ça a dû être compliqué, non, de mettre aux normes, ne serait-ce qu'une salle comme ça. Ça doit répondre à certains critères, j'imagine.
Ça a été très compliqué. Je pense que... Je ne sais pas si on serait lancé si on avait su tout ce qui nous attendait. Hein. Heureusement qu'on a avancé petit à petit et puis qu'on a réglé les problèmes au fur et à mesure. Des gros travaux réalisés par une entreprise spécialisée dans les travaux de Troglo, hein, évidemment. On s'est retrouvé un jour avec sur notre pelouse je sais pas combien de mètres cubes de gravats et qu'on a dû faire évacuer parce que on avait demandé à l'entreprise de faire un petit rajout quelque part, mais comme on n'avait pas le budget pour il nous a dit ok, je rajoute ça mais je vous laisse les gravats. Donc voilà, ça c'était un des problèmes rencontrés. Et puis après, il y a la commission de sécurité, il y a les problèmes de bruit, il y a les problèmes de billetterie. On a tout eu, mais on a su répondre à tout et on a fini par avoir l'autorisation d'ouvrir au public et ça fonctionne.
Et au niveau de la sécurité, pareil, il y a des normes, j'imagine.
Au niveau sécurité, on a eu la chance que cette cave troglodytique, elle se trouve parallèle au coteau et non pas perpendiculaire, c'est-à-dire qu'on ne s'enfonce pas dans la salle. Donc on a naturellement trois ouvertures. Donc on n'a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là.
Quand vous dites coteau, c'est finalement ce qui recouvre la salle, la végétation en fait.
Oui, c'est ça. Il y a des mètres, il y a plusieurs mètres de terre, puis des acacias au-dessus, voilà.
Et alors, faut aussi le préciser, ça fait partie à la base de votre maison, en tout cas de l'ensemble que vous aviez acheté à l'époque.
Ah ben oui, tout à fait.
La propriété.
Oui, ce sont les caves de l'auberge qu'on a achetées en tant que maison. Et donc, tout se trouve sur le même lieu. C'est-à-dire que quand on accueille les artistes, et les artistes qui peuvent venir de n'importe où en France, ou même en Belgique ou ailleurs, donc on les accueille à la maison, ils sont logés, hébergés à la maison et ils font 10 pas et se retrouvent dans la loge avant d'être sur scène.
Alors, on a oublié de le préciser, c'est un petit oubli de ma part, je m'en excuse. Tout ça se situe, la Touline, évidemment, à Azé-sur-Cher. Faut peut-être le préciser, j'aurais peut-être dû le faire en introduction, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. On connaît tous ce dicton. Est-ce que, du coup, le fait que ce soit une salle troglodyte, ça rentre aussi un peu dans l'argument atypique et, je dirais, marketing de la salle, dans le sens où vous vous démarquez aussi à ce niveau-là?
Ouais, alors marketing, on fait pas de marketing, nous. On fait une belle programmation, on fait un bel accueil et du coup, on a du public. Donc, marketing, c'est pas quelque chose
qu'on connaisse. Donc, c'est pas votre premier argument pour...
Non, un des arguments, c'est la culture en milieu rural. Malgré tout, parce que, bon, ok, c'est un troglo, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il se trouve à Azé-sur-Cher, dans un village de 3000 habitants, à 15 km de Tours. Donc, c'est la culture en milieu rural. Et d'ailleurs, on travaille avec d'autres salles atypiques en milieu rural en Indre-et-Loire. Des copains qui... Il y a à Loches, le théâtre du Rossignolet. Il y a à Amboise, la nouvelle salle Davidson. Il y a la Grange Théâtre de Vaugarny à Pont-d'Urlan, les Wagons à Saint-Branc. Tout ça, c'est pas des troglos, mais c'est des salles atypiques qui se trouvent en milieu rural et qui fonctionnent bien avec vraiment du public. Et on est très contents de pouvoir travailler ensemble de temps en temps.
Alors, vous l'avez évoqué, travailler ensemble. J'imagine que du coup, dans la même veine, vous avez une équipe. Est-ce que vous pouvez la présenter, les membres de l'association et ceux qui vous aident à gérer cette salle?
Oui. Alors, à la création de l'association, le président, le trésorier et le secrétaire étaient des jeunes qui avaient moins de 30 ans. Et puis nous, les vieux, on s'était mis en second. On était les adjoints. Et en fait, bon, ça n'a pas duré longtemps parce que le problème des jeunes, c'est qu'ils sont mobiles et donc ils ne sont pas restés dans la région. Donc on se retrouve plutôt avec une équipe de retraités, mais des jeunes retraités dynamiques, il ne faut pas s'inquiéter. Donc maintenant, le président actuel, c'est Marc Miot. Voilà, qui est président de la Touline. La vice-présidente, c'est Martine Guibert. Alors, ce sont des personnes d'Azé-sur-Cher. Ensuite, je suis secrétaire adjoint. C'est une nouvelle depuis le mois d'octobre, Isabelle Papin, qui, elle, travaille à la Ville aux Dames et habite à Nazelles-Négron. Trésorier, nouveau trésorier, Jean-Paul Frélier, qui est aussi d'Azé-sur-Cher, et le trésorier adjoint, Richard Violante.
Que
donc,
du local.
Un bureau local de 6 personnes, un conseil d'administration de 12 personnes, et puis surtout 140 adhérents. Et une trentaine de bénévoles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un spectacle, la veille, on fait le ménage, on est 4 ou 5 des bénévoles. Le jour du spectacle, eh bien, il y a un bénévole qui accueille le public, un bénévole qui fait le placement en salle, un bénévole qui fait la billetterie, un autre qui fait des crêpes, deux ou trois qui tiennent le bar après le spectacle. Voilà. Et pour les 10 ans de la Touline, où on a fait un joli petit festival, on avait 50 bénévoles enthousiastes.
Alors voilà, on peut revenir sur ces 10 ans justement de la Touline que vous avez fêté finalement en septembre dernier. Alors expliquez-nous comment ça s'est passé et ce que vous avez fait de particulier pour ces 10 ans.
Alors là, c'était un grand moment. Mais en fait, quand on a réalisé qu'on allait avoir 10 ans, on a discuté avec un artiste qui est passé plusieurs fois à la Touline et qui est devenu un ami. Et il nous a dit, mais il faut faire un gros truc pour les 10 ans. Et il faut inviter plein d'artistes. Mais on a dit, oui, mais on n'aura jamais le budget. Et il nous a dit, ah mais non, mais si vous nous invitez à votre anniversaire, bien sûr qu'on ne se fait pas payer. Vous nous remboursez les frais de déplacement, vous nous hébergez, mais on ne demandera pas de cachet puisqu'on viendra pour l'anniversaire de la Touline. Et c'est comme ça qu'on s'est permis de faire, je ne sais plus, je crois 35 spectacles.
Ah oui.
Avec plus de 40 artistes. Ça a commencé le vendredi soir et puis ça a continué le samedi. Le samedi, on a commencé dès midi et on a fini à 2h du matin. On avait monté plusieurs scènes, 4 scènes. Il y avait la scène dans le troglo comme d'habitude. Il y avait une scène à l'extérieur devant le troglo comme on fait quelquefois. On avait installé une scène sur la place la place du village juste en face de la Touline et une quatrième scène dans le nouveau bar de la Touline qui est installé dans un pressoir.
Alors aujourd'hui, un quiz qui est consacré à l'habitat et aux bâtiments troglodytes. Voilà, on va voir un peu, on va faire un petit tour sur le sujet. Première question, est-ce que vous savez ce que signifie le mot troglodyte, son étymologie en fait?
Troglo, ben non, en fait.
En fait, ça vient du latin, comme beaucoup de mots, hein, on va pas se le cacher, du latin troglodita, qui vient lui-même du grec ancien. Bon, je vais pas m'aventurer à prononcer le grec ancien, j'ai les lettres sous les yeux, mais c'est assez dur pour moi de prononcer. Mais en tout cas, ça vient de caverne et de plongée. Donc, plongée dans la caverne, okay. En fait. Voilà, parce que finalement, à l'époque aussi, l'homme préhistorique vivait dans des grottes qui pouvaient être assimilées à des maisons troglodytes déjà à l'époque, tout simplement. Deuxième petite question. Est-ce que vous savez combien il y a en France de lieux dits troglodytes ?
Ouh là là, beaucoup ! Il y en a beaucoup dans notre région et beaucoup dans le Maine-et-Loire.
Ça fera l'objet de la prochaine question dans la région. Donc
Mais un nombre de troglos.
Ouais, en France, de lieux dits troglodytes, en sachant évidemment qu'il y a beaucoup de lieux qui ont disparu parce que qui n'ont pas été rénovés, bien qui n'ont pas été conservés, etc.
Mmh. Bon, allez, je vais dire 10 000.
On est à 45 000.
Ah oui,
45
quand même,
000 hein. lieux troglodytes, donc ça comprend tout, hein, des caves troglodytes, des salles de tout, hein, des grottes troglodytes, etc. Et alors du coup, on en vient à la troisième question. Dans le Val-de-Loire, donc dans la région, combien y a-t-il de lieux troglodytes ?
Oh, bah, sur les 45 000, il y en a, 25 000.
Ah, on est à moins, on est à 5000 environ. Environ 5000, en sachant par contre qu'au début du siècle, au début du 20e siècle, pardon, je vais être précis, on estime qu'il existait en Touraine 15 000 caves troglodytes. 15 000. Alors en fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a énormément de caves troglodytes qui ont été abandonnées et qui sont soit détruites, soit plus en tout cas en l'état. Dernière petite question, est-ce que vous savez. Comment surnomment les Tourangeaux les habitats dits troglodytes ? Quel est le surnom que donnent les Tourangeaux aux habitats troglodytes ? Il y en a un en particulier.
Oh, c'est le Gruyère, non ?
Ah non. Non, alors apparemment, et encore une fois, je ne suis pas Tourangeau, mais d'après mes sources, qui sont peut-être faillibles, hein, j'en sais rien, les maisons à l'envers, ça vous dit rien ?
Ah bon ? Ah non.
Les maisons à l'envers, apparemment, c'est un terme Tourangeau qui désigne les habitants troglodytes.
Puisqu'on creuse plutôt que de construire, je
peut-être.
Pense que c'est ça.
Oui,
hein.
Peut-être. Ouais, alors évidemment, il y a les mots caves qu'on utilise peut-être plus fréquemment, mais en tout cas, les maisons à l'envers, ça serait typiquement
d'ici. Ah ben, je
l'apprends.
Ouais.
Voilà. Voilà, bah c'était le petit quiz sur les habitats troglodytes.
J'ai
c'était pas
eu
facile.
20 sur 20.
Non,
hein.
Mais c'était pas facile. Je suis pas quelqu'un qui pose des questions faciles. Malheureusement, il faudrait peut-être que je revoie un peu ma politique sur ce quiz. Par contre, on peut revenir maintenant plus précisément sur la programmation de la Touline, puisque vous programmez notamment le week-end prochain, ou en tout cas à partir du vendredi 12 janvier, l'analphabète. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par ce spectacle, nous le décrire un peu et puis plus largement aussi nous parler de la programmation à venir ?
Tout à fait, oui. Alors l'analphabète, c'est du théâtre. C'est un texte d'Agota Christophe qui a... En fait, c'est le premier récit autobiographique d'Agota Christophe. C'est une auteure hongroise qui a écrit, entre autres, Le Grand Cahier. C'est quelque chose qui, je pense que c'est son roman le plus connu. Ça fait partie d'une trilogie, Le Grand Cahier, qui a eu le prix du livre européen. Et la trilogie, c'était Le Grand Cahier, La Preuve et Le Troisième Mensonge. Voilà, donc c'est un texte sur le lire, écrire. C'est un des petits textes d'ailleurs qui explique l'intérêt de savoir lire et écrire pour gagner en liberté. C'est une pièce qu'on a vue à Avignon il y a, je crois, 3 ans, interprétée par Catherine Salvia. Catherine Salvia, c'est une...
Qui a déjà fait une apparition à la Touline en 2009.
Voilà.
C'est ça ?
Oui, oui, oui. En 2009, on l'avait reçue en 2009. Elle avait été programmée à la Touline et à la Grange Théâtre de Vaugarnies. Et bon, bah, c'est une comédienne extraordinaire, hein, sociétaire honoraire de la Comédie française, qui est en plus une femme adorable. Donc, quand on a vu qu'elle jouait une nouvelle pièce à Avignon, bien sûr, on est allé la voir cette pièce et on a apprécié. Alors, à Avignon, c'était avec un décor extraordinaire qui ne loge pas dans la Touline, mais qu'à cela ne tienne, elle a adapté et donc elle viendra présenter ce texte.
Oui, bah c'est vrai, il y a aussi une adaptation des moyens, puisque la salle est quand même, reste petite, 50 personnes,
hein,
on
ne
va pas se le cacher, ça reste aussi une salle petite, donc il faut aussi s'adapter et il faut que les acteurs et les comédiens s'adaptent aussi.
Oui, alors c'est une pièce qu'on a programmée donc pour le vendredi 12 janvier à 21h, et comme les réservations sont arrivées très très vite, parce que Catherine Salvia est connue et appréciée, eh bien on lui a demandé de jouer la veille ou le lendemain, et elle ne pouvait pas parce qu'elle joue à Paris tous les soirs. Et elle avait libéré son vendredi 12. Mmh. Et du coup, elle a dit, mais je peux faire deux séances le même soir. Donc, on va jouer à 18h et à 21h.
Et ça, c'est vendredi 12 janvier, pour être très précis, avec l'analphabète.
Voilà. Et aujourd'hui, on peut annoncer qu'à 18h, c'est complet et qu'il reste quelques petites places à 21h.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouveauté 2018, finalement ? Puisque ça vient de voir le jour, dimanche au pressoir. Qu'est-ce que signifie et qu'est-ce qu'est finalement dimanche au pressoir ?
Alors, c'est notre dernière invention, effectivement. On a aménagé l'hiver dernier une nouvelle salle qui était le pressoir du vigneron qui en était propriétaire. C'est une salle de 50 mètres carrés, pratiquement carrée, qui est bien aménagée, qui est joliment aménagé, avec un bon poêle qui nous réchauffe bien. Et donc, ça sert de bar à la Touline, après les spectacles. On s'y retrouve, spectateurs et artistes, pour discuter et boire un verre. Et puis, on s'est dit, mais il ne faut pas en rester là. On a installé une petite scène dans un coin, et on a dit, cette scène, eh bien, il faut qu'on en fasse quelque chose.
La faire vivre. Comme ça.
Voilà, et la faire vivre. Et on s'est dit, le dimanche, à 18h, c'est un peu tristouné, et on pourrait peut-être faire quelque chose. Et donc, on a regardé le calendrier, et des dimanches libres, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a trouvé un, le dimanche 21 janvier, et donc on a demandé au duo Express de venir nous faire un concert de jazz. Et donc, on va essayer d'installer cette salle un petit peu en style cabaret, et ça veut dire qu'on pourra boire un verre, grignoter un petit quelque chose, tout en appréciant un bon spectacle.
Et ça, on le répète pour nos auditeurs, c'est le dimanche 21 janvier, donc à 18h, dimanche au pressoir, donc un nouveau concept, ou en tout cas une autre salle qui est gérée par vous, par la Touline. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la suite pour 2018, parce que vous avez une programmation déjà établie ?
Alors, le spectacle suivant, c'est le vendredi 26 janvier à 21h, L'Homme de la Manche. Alors là aussi, le spectacle a été très vite complet, ce qui fait que l'équipe va venir dès le jeudi 25. Donc, il y aura spectacle le jeudi 25 et le vendredi 26. L'Homme de la Manche, on a appelé ça un divertissement poétique. Eh bien, ce sont des textes de Bernard Dimet, qui sont dits de façon remarquable par Jean-Michel Piton. Bon, on a vraiment l'impression d'avoir Bernard Dimet devant nous, là, sur scène. Après, on peut presque le toucher, c'est extraordinaire. Et il est accompagné par Nathalie Fortin au piano. Nathalie Fortin, elle a été pianiste d'Alain Leprest, entre autres. Et puis Bertrand Lamarchand à l'accordéon, sensationnel aussi. Et ce trio, nous l'avons vu au printemps dernier dans un petit festival qui s'appelle Chanson, je ne me souviens plus, qui se trouve au sud d'Angers. Bon, on a été emballés et donc on a tout de suite contacté Jean-Michel Piton et c'est comme ça qu'il va venir jouer Bernard Dimet les 25 et 26 janvier.
L'homme de la Manche, et après il y aura aussi La Vache qui Rock. Alors ça sera un concert et il y aura d'autres choses. Hein. Je peux en citer quelques-unes de choses qui va se produire à la Touline. Il y aura aussi Couloir de la Mort à partir du 18 février 2018. Donc là c'est de l'écriture et de l'interprétation. Et puis après des spectacles N'empêche qui aura lieu en mars 2018, etc. En tout cas, c'est une programmation qu'on peut retrouver sur le site. Hein, ouais. Il n'y a aucun problème. Le site, je le rappelle, La Touline, je l'ai noté quelque part, je ne vais pas dire de bêtises, latouline37.com. Voilà, ça c'est pour le site
tout
internet.
À fait.
Dernière petite question avant qu'on passe, qu'on termine déjà l'interview. Comment vous faites pour financer finalement toute cette programmation? Comment vous arrivez à gérer le financement de cette salle et la programmation danse?
Oui, c'est important de le signaler parce que la billetterie dans une salle de 50 places ne peut pas suffire.
Pas, ouais.
Voilà. Donc, on est subventionné. On est subventionné par la commune, la communauté de communes, le département, la région. Et bien sûr que sans ces financements, la Touline n'existerait pas. C'est très, très, très important de le dire. C'est une aide à la culture en milieu rural qui permet cette programmation et cette programmation importante, ce nombre de spectateurs important, puisque c'est une petite salle de 50, mais qui est toujours pleine et où on passe des moments de convivialité extraordinaires, puisque l'avantage des petites salles, c'est que après le spectacle, le public et les artistes se retrouvent pour partager, pour discuter de ce qui vient de se passer. Et ça, c'est un plus extraordinaire.